Voilà, c'est la paire de la rentrée. Et à la télé, on voit beaucoup de reportages sur les étudiants qui cherchent un logement, une colocation. Mais imaginez que dans une colocation, donc, il y a une personne qui soit plutôt très rangée, qui soit locataire de ce logement depuis longtemps, et puis qu'arrive un colocataire qui arrive et qui soit plutôt très désordonné. Voilà. D'après vous, combien de temps pensez-vous que le très ordonné va-t-il tenir en compagnie de ce nouveau colocataire très désordonné? On imagine facilement que ça va friter assez rapidement. Les premiers chrétiens étaient pratiquement exclusivement des juifs d'origine, en particulier à Jérusalem, puisque c'est là qu'est née l'Église, mais aussi dans toute la Judée. Mais au fur et à mesure des années, il y a eu d'autres églises qui ont été créées ailleurs qu'en Judée, et puis même dans les églises en Judée à Jérusalem, il y a eu non seulement des juifs qui se sont convertis, mais aussi des non-juifs qui ont rejoint l'église, qui sont devenus chrétiens. C'est par exemple le cas de l'église d'Antioche, de Syrie, mais aussi, donc, dont on en a parlé la dernière fois, de l'ensemble des églises que Paul a implantées dans son premier voyage missionnaire. Et la semaine dernière, nous avions évoqué l'église de Antioche de Pisidie. Donc au fur et à mesure que les églises se sont... que le nombre de chrétiens d'origine non-juive a augmenté, que le nombre d'églises majoritairement non-juives aussi a grandi, s'est posé la question de la cohabitation entre ces chrétiens d'origine juive et ces chrétiens d'origine non-juive. Et c'était une importante question doctrinale pour certains chrétiens d'origine juive, parce qu'ils étaient complètement déstabilisés au fait que des gens qui ne connaissaient pas Dieu, qui étaient loin de Dieu, puissent bénéficier de la grâce de Dieu de la même manière qu'eux, sans être eux-mêmes juifs. Le chapitre 15 du livre des Actes, que nous allons étudier ce matin, est considéré comme le chapitre central de ce livre, un élément clé dans l'histoire de l'Église primitive, parce que c'est à partir de ce qui s'est passé dans ce chapitre 15 que va quelque part se débloquer d'une manière assez extraordinaire l'évangélisation du monde romain. Si vous regardez le titre qui est donné dans vos Bibles, je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est indiqué « Concile de Jérusalem ». Alors le concile, ça fait référence, on sait que dans l'Église catholique, il y a eu un certain nombre de conciles au fur et à mesure des siècles, et je dirais que ce premier concile, c'est celui de Jérusalem, donc dans les années à peu près 49. Et je vous invite à lire donc les 31 premiers versets de ce chapitre, pour voir de quoi il s'agit. « Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Là, on se situe à l'église d'Antioche. Paul et Barnabas eurent un vif débat, une vive discussion avec eux. Les frères décidèrent alors que Paul, Barnabas et quelques-uns d'entre eux monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Envoyés donc par l'Église, ils traversèrent la Phénicie, la Samarie, en racontant la conversion des non-juifs, et ils causèrent une grande joie à tous les frères et sœurs. Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques croyants issus du parti des pharisiens se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les non-juifs et leur ordonner de respecter la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question. Il y eut une longue discussion. Pierre se leva alors et leur dit : « Mes frères, vous savez que dès les premiers jours, Dieu a fait un choix parmi nous. Il a décidé que les non-juifs entendraient par ma bouche la parole de l'Évangile et croiraient. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi provoquer Dieu en imposant aux disciples des exigences que ni nos ancêtres ni nous n'avons été capables de remplir. Nous croyons au contraire que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, tout comme eux. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul raconter tous les signes miraculeux et les prodiges que Dieu avait accomplis par leur intermédiaire au milieu des non-juifs. Lorsqu'ils eurent fini de parler, Jacques prit la parole et dit « Mes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment, dès le début, Dieu est intervenu pour choisir parmi nous, parmi les nations, un peuple qui porte son nom. Cela s'accorde avec les paroles des prophètes, puisqu'il est écrit « Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, je réparerai ses ruines, je la redresserai. Alors, le reste des hommes cherchera le Seigneur, ainsi que toutes les nations appelées de mon nom, dit le Seigneur qui fait tout cela, et de qui cela est connu de toute éternité. » C'est pourquoi je pense qu'on ne doit pas créer de difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu, mais qu'il faut leur écrire d'éviter les souillures, des idoles, l'immoralité sexuelle, les animaux étouffés et le sang. En effet, depuis bien des générations, dans chaque ville des hommes prêchent la loi de Moïse, puisqu'on la lit chaque sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à toute l'Église, de choisir parmi eux Jude, appelé Barsabbas, et Silas, des hommes estimés parmi les frères, et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas. Ils les chargèrent du message que voici. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères et sœurs d'origine non-juive qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Nous avons appris que des hommes partis de chez nous, mais sans aucun ordre de notre part, vous ont troublé par leur discours et vous ont ébranlé en disant de vous faire circoncire et de respecter la loi. C'est pourquoi nous avons décidé d'un commun accord de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont livré leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses. En effet, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, de l'immoralité sexuelle. Vous agirez bien en évitant tout cela. Adieu. Ils prirent donc congé de l'Église, allèrent à Antioche, où ils réunirent l'Assemblée et lui remirent la lettre. On y fit la lecture et tous se réjouirent de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jusque-là. Il y a donc dans ce récit du chapitre 15 la manière dont a été résolu un conflit majeur. Et il y a dans les quatre premiers versets, tout d'abord, l'explication de la source du conflit. Et ce sera ma première partie, la source du conflit. Paul et Barnabas sont revenus depuis quelque temps à Antioche de Syrie, après leur premier voyage missionnaire. Alors, leur retour, ils ont pu raconter à l'Église tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert la porte de la foi aux non-juifs. C'est ce qui est écrit dans le chapitre qui précède, chapitre 14, verset 28. Il est fort probable que c'est également dans cette période que Paul a écrit son épître aux Galates. Et puis voilà qu'un jour arrivent donc des hommes venant de Judée qui se mettent à enseigner d'une drôle de manière. Qui étaient donc ces hommes? Alors on l'a lu à la fin du texte, que c'était finalement des personnes qui s'étaient auto-proclamées enseignants mais qui n'avaient pas été envoyées par l'Église de Jérusalem. Le problème est que leur enseignement cloche. Ils affirment que pour être sauvés, les non-juifs, le non-juif doit d'abord devenir juif et donc se faire circoncire et respecter la loi de Moïse. De quoi troubler les esprits des chrétiens d'origine non-juive. Et c'est en totale contradiction avec le message que Paul proclame depuis des mois, à la fois à Antioche, mais aussi dans toutes les églises où il est allé. Et on voit ici que Paul et Barnabas s'empressent de confronter ces juifs venus de Judée, ces chrétiens venus de Judée. Parce que, et le texte nous parle ici qu'il y a eu un vif débat et une vive discussion. C'est assez soft hein, comme mot, mais on voit bien que derrière, ça a dû être chaud. Mais il faut savoir que l'enjeu est de taille. Parce que derrière une telle affirmation, déjà Paul pouvait se demander, mais est-ce que c'est la position de l'église de Jérusalem ? Et ça risquait, et on va le voir pourquoi, ça risquait de faire exploser l'église et les églises qu'il avait implantées. Pourquoi ? La question est en ces termes-là. Soit on définissait l'église comme étant une branche du judaïsme, et dans ce cas, il était nécessaire de devenir juif pour être chrétien, mais vous conviendrez avec moi que la porte d'entrée à la grâce et au salut était compliquée, voire rebutante. Soit l'Église était considérée comme quelque chose de nouveau, qui réunissait à la fois des chrétiens d'origine non juive et des chrétiens d'origine juive, mais qui avait sa propre autonomie et qui était ouverte à toute personne désirant recevoir le pardon de ses péchés. Donc l'enjeu était énorme par rapport à l'annonce de l'Évangile. Et on voit bien que là, les responsables de l'église d'Antioche comprennent l'enjeu et c'est pour ça qu'ils décident d'envoyer des personnes à Jérusalem pour débattre de ce sujet-là. Ils savaient bien que ce n'était pas un sujet qu'ils pouvaient débattre par eux-mêmes, mais qu'il fallait en référer à la fois aux apôtres et aux anciens de l'église de Jérusalem, qui étaient quelque part, de là, c'était l'origine de l'église, et c'est de là que venaient les enseignements en particulier reçus par les apôtres, qui venaient directement de Jésus. Il faut savoir que les chrétiens à l'époque ne disposaient pas de Bible, et que la seule chose qu'ils avaient, c'était le témoignage des apôtres, l'enseignement des apôtres, peut-être déjà quelques lettres écrites, mais très peu. Alors ils traversent la Samarie, donc ils descendent d'Antioche, ils traversent la Samarie, ils racontent ce qui se passait dans les voyages missionnaires de Paul, comment les non-juifs ont pu accepter le salut, et ça a réjoui le cœur des chrétiens de Samarie. Et donc quelque part, je pense que pour Paul et Barnabas, c'était un appui, en se disant, voilà, ce qui s'est passé à Antioche, les problèmes de vision, ben finalement, non, il y a quand même des gens qui sont contents que des non-juifs acceptent le salut sans qu'il y ait de contraintes particulières qui leur soient imposées. Ça m'a fait penser, donc, cette première partie à la question suivante, c'est comment parvient-on à la vie éternelle ? Les juifs se sont posé la question. Les juifs, donc les chrétiens d'origine juive, est-ce qu'il fallait passer par le judaïsme pour ensuite pouvoir être chrétien, être sauvé ? Nous, on sait que c'est par la grâce et que c'est par Jésus seul. Mais on sait aussi que cette question du salut, elle s'est reposée à l'époque de la Réforme. C'est ce qui a poussé Luther à sortir et à s'opposer à l'Église catholique, parce que voilà, la question qui se posait, c'était la même. Comment parvient-on à la vie éternelle ? Est-ce par la foi seule, ou est-ce qu'il faut aussi adopter tout un système rituel et qui n'est pas forcément biblique et libérateur ? Et je me demande si aujourd'hui, alors évidemment, on a tous envie de présenter l'Évangile tel qu'il est, mais est-ce qu'inconsciemment, on ne lui ajoute pas des suppléments, un petit supplément concernant un style de vie ou un comportement type ? Alors que l'Évangile est liberté et vie. Donc nous avons vu dans ces quatre premiers versets la source du conflit. Nous allons voir maintenant dans un deuxième temps, les versets 5 à 29, l'assemblée à Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem ? Et on va voir dans ce qui s'est passé à Jérusalem trois parties également. Tout d'abord, la confrontation des points de vue et le discours de Pierre. Donc, c'est mon premier sous-point. Paul et Barnabas arrivent à Jérusalem et ils commencent à voilà, à parler de ce que Dieu a fait, comment Dieu a appelé à la fois des juifs et des non-juifs dans les villes dans lesquelles ils sont passés, sans qu'on ait besoin de leur imposer quoi que ce soit d'autre. Et on a lu dans le texte que, je dirais presque aussitôt, des judaïsants se sont levés, ont pris la parole, je pense même, on pourrait même dire qu'ils ont coupé la parole à Paul et à Barnabas, pour dire que non, ces chrétiens qui doivent être circoncis et doivent respecter la loi de Moïse, sinon ils ne peuvent pas être chrétiens. On voit là deux points de vue contradictoires qui ont été exprimés. Et c'est sur la base de ces deux points de vue que les apôtres et les anciens, il est marqué au verset 6, qu'ils se réunirent pour examiner la question. Ils ont entendu les points de vue et ensuite ils prennent le temps de se réunir pour réfléchir. On ne sait pas ce qui s'est dit, enfin si, on ne sait pas tout en tout cas, mais Luc rapporte simplement deux choses, enfin deux, trois choses. Tout d'abord, le discours de Pierre, quand Pierre prend la parole. Il rappelle que c'est Dieu qui l'a choisi pour annoncer l'évangile aux non-juifs. Et il fait référence à ce qui s'est passé quand il est allé voir Corneille. Je crois que Benoît nous en avait parlé il y a quelque temps. Pierre donc était là quand l'évangile a été annoncé et reçu de façon simple, sans de la même manière. Et pour lui, son point de vue est clair, la situation est claire. Il a vu que ce que Dieu a accompli sous ses yeux, il dit, mais Dieu leur a rendu un témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il ne fait pas de différence entre les deux, dit-il, et c'est par la grâce du Seigneur que nous sommes sauvés, tout comme eux. Il ne voit pas pourquoi on leur imposerait quelque chose de plus. Et il tient à préciser d'autant plus que la loi, personne ne l'a accomplie, donc pourquoi mettre quelque chose de si lourd sur leur dos ? Seul Jésus l'a accompli. Et on voit au verset 12, que toute l'assemblée garde le silence. Ils ont entendu les paroles de Pierre et on a l'impression que la parole de Pierre fait autorité. Et que c'est suite à ce silence-là que Paul et Barnabas ont la liberté de enfin pouvoir raconter, sans être coupés, ce que Dieu accomplit à travers eux auprès des païens, sans exiger autre chose que la foi. Il est intéressant de voir comment le problème a été traité. Les deux parties se sont exprimées, elles ont eu la possibilité de s'exprimer. Ensuite, les responsables de l'Église, en possession des éléments, ont pu débattre. Et ça fait tout simplement penser à ce verset que Jacques a écrit quand il dit que nous devons être prompts à écouter et lent à parler. Donc après avoir confronté les points de vue, et après que Pierre se soit exprimé, et que Paul et Barnabas aient pu ensuite continuer à témoigner, il y a deuxièmement le discours de Jacques. Jacques prend la parole une fois qu'ils ont terminé. Quand ils eurent fini de parler, Jacques prit la parole, dit le texte. Qui est ce Jacques ? Jacques, alors c'est pas Jacques Addy, mais c'est Jacques, le frère de Jésus, qui était un des principaux responsables, peut-être même le principal responsable de l'église de Jérusalem, c'est celui qui a écrit l'épître qui porte son nom. Et je trouve que son intervention est remarquable à plusieurs titres. Tout d'abord, alors il est ancien de l'église de Jérusalem, il faut se rappeler, donc il y a à Jérusalem les apôtres, qui sont pas forcément reliés à l'Église, enfin au niveau d'autorité, parce qu'ils ont un rôle beaucoup plus général, et puis il y a les anciens de l'Église qui en chargent l'Église. Jacques est l'ancien, un ancien, il est responsable de l'Église, et il se réfère à ce que dit Pierre. Donc il va chercher l'autorité dans ce qu'il va dire, en se référant à la parole de Pierre qui a une autorité apostolique. Mais il ne va pas seulement faire référence au vécu de Pierre, à l'intervention de Pierre, aux explications de Paul et Barnabas. Et c'est ça que je trouve remarquable, c'est qu'il va aussi se tourner vers l'Écriture. Vers l'Écriture. Et c'est sur l'Écriture, la parole de Dieu, qu'il va prendre appui comme soutien de sa proposition. Alors il cite un texte du prophète Amos et il l'interprète d'une manière assez claire, en disant qu'il y a effectivement ce qu'on appelle le reste des hommes, qui cherchera le Seigneur, et ça il s'agit des Juifs qui se tournent vers Jésus et qui deviennent chrétiens. Mais il y a aussi dans ce texte mention des nations qui seront appelées. Et là, on voit bien qu'il y a à la fois donc, ce reste qui va devenir disciple de Christ, mais il y a aussi des nations qui vont aussi se joindre à eux pour être aussi disciples de Christ. On voit bien que, donc, qu'il y a deux entités différentes, distinctes, et qu'il faut tenir compte à la fois de l'une et de l'autre. Parce que ces deux entités doivent vivre l'unité de la foi et doivent se côtoyer. Que propose-t-il donc ? Il propose que les païens ne soient pas contraints à la circoncision. Donc il affirme là que le salut, il est lié à la seule foi en Jésus-Christ, à l'exclusion de toute autre exigence de quelque ordre que ce soit. Mais il les invite cependant à respecter des règles d'une saine cohabitation entre non-juifs et juifs. Et ce discours de Jacques, pour moi aussi, m'interpelle parce que je me dis, mais comment est-ce que moi je définis ce qui est vrai et bon ? Est-ce que je définis ce qui est vrai et bon sur mon expérience, sur mes convictions, ou est-ce que je tiens compte de la parole de Dieu ? Et on voit bien que dans le discours de Jacques, qu'est-ce qui a le plus d'autorité ? C'est bien évidemment la parole de Dieu qui permet aussi et qui est ensuite confirmée par l'expérience de Pierre et les explications de Paul et de Barnabas. C'est la parole de Dieu qui doit être la source de notre conviction et de notre expérience. Donc après la confrontation des idées, après le discours de Jacques, il y a ensuite la décision de l'Assemblée et sa mise en œuvre. C'est le troisième sous-point. La décision de l'Assemblée et sa mise en œuvre. Jacques donc propose une résolution à l'ensemble de l'Église. Il soumet à l'Église une proposition et on voit dans le texte qu'il se range à son avis, donnant donc d'une part raison à Paul et Barnabas qui viennent d'Antioche, mais aussi en respectant la tradition cultuelle juive. On pourrait dire qu'il propose là un compromis gagnant-gagnant. Le texte nous dit « Il parut bon aux apôtres, aux anciens, ainsi qu'à toute l'Église. » Ça veut dire que chaque personne a été amenée à s'exprimer et à donner son adhésion. Et c'est intéressant de voir que finalement, cette décision fait l'unanimité. Donc il ne s'agit pas de prendre une décision, mais ensuite il faut la mettre en pratique. C'est comme quand le gouvernement fait une loi, après il y a les décrets d'application qui sont ensuite envoyés dans les administrations et qui sont mis en place. De la même manière ici, une position officielle a été arrêtée, mais il faut aussi penser à la diffuser. Donc ils mettent par écrit les recommandations, ils choisissent des gens pour les porter cette lettre, et là encore, on voit que c'est une décision qui se fait à l'unanimité. Nous avons décidé d'un commun accord. Il est intéressant de voir aussi que dans les explications qu'il donne, il se désolidarise de ces chrétiens judaïsants qui étaient venus à Antioche de leur propre chef et qui ont semé le trouble auprès des païens convertis. Je trouve aussi intéressant ce qu'ils affirment au verset 28. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Ils ont conscience, ils sont convaincus que la décision qu'ils ont prise, c'est le Saint-Esprit qui leur a communiqué, qui leur a indiqué. Je voudrais citer un commentaire rapidement. Cette décision prise dans l'Assemblée de Jérusalem avait deux conséquences importantes pour la vie des croyants. Tout d'abord, elle libérait la pratique de l'évangélisation auprès des non-juifs de tout lien avec un quelconque prosélytisme juif, ce qui lui permit un essor extraordinaire. Et d'autre part, elle indiquait une voie pour faire cohabiter avec un même témoignage des chrétiens juifs et non-juifs dans le respect des différences. Voilà l'enjeu. C'était ça l'enjeu. Et finalement, il y a eu des concessions de part et d'autre. Mais cela a sauvegardé l'unité de l'Église. Et je voudrais encore citer ce que disait John Stott. Le Concile de Jérusalem a remporté une double victoire, une victoire de la vérité en confirmant l'évangile de la grâce et une victoire de l'amour en préservant la communion par des concessions sensibles aux scrupules des juifs consciencieux. Et il faut comprendre, enfin il ne faut pas les excuser, mais il faut comprendre les juifs de la nouveauté de la chose et de la difficulté qu'ils ont à appréhender cette nouveauté. Et je fais un parallèle avec ce qui se vit encore actuellement en Afrique du Sud. L'apartheid a été aboli depuis combien de temps? Je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Mais plusieurs, 20 ans, peut-être. Et on regardait l'autre jour à la télé, il y avait une émission, c'était des personnes de couleur blanche qui disaient, mais l'apartheid a été aboli depuis 20 ans, mais on a grandi avec ça, et pour que ça concrètement, on arrive à bien vivre ensemble entre personnes de couleur blanche et de couleur noire, ça va prendre des générations. Il faut voir que pour les juifs, c'était la même manière. Ils étaient en rupture totale avec les non-juifs. Un juif ne pouvait pas entrer dans une maison d'une personne qui n'était pas juive. Donc au niveau culturel, il y avait une séparation totale. Le fait que tout d'un coup, des non-juifs puissent vivre la même chose qu'eux et vivre dans une vie d'église avec eux, c'était quelque chose de très difficile à réaliser. La démarche qui s'est passée donc à Jérusalem est vraiment importante. Confronter les points de vue pour arriver à une décision, on ne sait pas combien de temps ça a pris, mais ça a dû prendre du temps. On ne sait pas si ça a été facile ou pénible, mais j'imagine que ça a dû être pénible, mais c'était quelque chose de nécessaire pour préserver l'unité de l'Église. Et on voit qu'ils sont allés jusqu'au bout en mettant en place une communication adaptée pour que les Églises soient officiellement informées. Et c'est ce qui se passe donc à la fin, donc dans les versets 30 et 31, on voit que c'est ce que j'ai intitulé « Le retour à Antioche », la troisième partie. Accompagné de la délégation de Jérusalem, Paul et Barnabas reviennent à Antioche. Ils sont accueillis, bien évidemment, ils sont contents de les voir, mais ils sont surtout contents de voir le contenu de ce courrier qui les encourage, disent-ils. J'imagine le ouf, le soulagement. Ça y est, enfin les tensions vont cesser, on va pouvoir se concentrer, pas gaspiller notre énergie à vivre cette tension, mais au contraire, utiliser tous les moyens qu'on a pour l'œuvre du Seigneur. Alors on peut se demander, mais ces restrictions, ces instructions, quelle portée ont-elles? Est-ce qu'on doit encore aujourd'hui appliquer ces directives données donc par le concile de Jérusalem? Tout le monde est d'accord pour dire qu'il s'agit ici de mesures qui étaient transitoires, qui étaient nécessaires pour qu'il y ait une vraie communion possible entre chrétiens d'origine juive, chrétiens d'origine non-juive. Il s'agit de là de règles de bien vivre ensemble, mais qui sont liées au contexte de l'époque. Alors si les limitations données, on n'a pas à les appliquer telles quelles, je pense que par contre on a à tenir compte de l'esprit qui leur a donné vie. Et je pense que ce qu'il y avait derrière, c'était un appel à avoir égard les uns vis-à-vis des autres, à ce que l'amour commande nos actions et que nous évitions les occasions de scandale de manière absolue. Et ça m'a fait penser à ce que Paul disait dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 32, « Que rien dans votre comportement ne soit une occasion de chute, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour les membres de l'Église de Dieu. » Alors, tout comme les chrétiens du premier siècle, nous sommes invités à faire passer les grands objectifs de Dieu avant nos préjugés et nos présupposés. Nous sommes invités à imiter notre Seigneur, qui était tolérant, qui était compréhensif et qui était aussi rempli d'acceptation de l'autre. Et puis je vais conclure. Parce que, voilà, que nous rapporte ce chapitre d'Acte 15? On pourrait sûrement dire d'autres choses, mais je voudrais souligner deux choses. Tout d'abord, que nous devons protéger comme un trésor le salut par la foi et par la grâce de Dieu. Et de ne jamais rien y ajouter. Nous n'annonçons pas des rites, nous n'annonçons pas une pratique religieuse, mais nous annonçons une personne, nous annonçons une relation personnelle avec Jésus-Christ mort et ressuscité. Je veux citer ici des paroles de l'apôtre Paul. J'ai décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Nous invitons à une relation vivante avec cette personne. Si je vis, dit Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ est vivant. Nous appelons à la réconciliation avec Dieu. Paul dit, nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous proclamons le salut par grâce, accessible par la foi, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, dit Paul aux Galates. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Paul a eu ce désir de protéger la vérité de l'Évangile contre le mensonge. Et puis la deuxième chose que nous apprend ce chapitre, il nous montre un très bel exemple de la gestion de conflits. Ce récit indique que nous ne devons pas nous accommoder de nos désaccords sans en parler ensemble pour chercher ce qui sert réellement le projet de Dieu. Je crois que nous ne devons pas minimiser les différends, les incompréhensions, et que nous devons chercher à les régler de la bonne manière. Alors c'est vrai que personne n'aime les confrontations. Mais que se serait-il passé si Paul s'était simplement dit en lui-même « Oh là là, c'est bizarre leur position », et puis qu'il n'avait rien fait. Ou s'il était allé voir Barnabas, il a dit « Mais c'est vraiment dommage qu'ils n'aient pas compris la grâce, mais bon, c'est comme ça. » Il est nécessaire d'aborder les problèmes. Il est nécessaire de les aborder pour les résoudre. Si nous avons des choses qui sont incomprises, des choses qui nous ont blessés, la première chose à faire, c'est, comme l'apôtre Paul l'a fait, d'aller voir les personnes et de discuter de ce qui s'est passé, de ce qui s'est dit. Et déjà là, on arrive à résoudre un certain nombre de choses, de problèmes, parce que c'est parfois des incompréhensions, et souvent, on arrive à s'expliquer. Et puis quand le problème est grave, le conflit est grave, eh bien faire comme ils ont fait. De dire oui, il y a un problème, il faut le résoudre. Mais nous, on n'est pas capable de le faire, on va aller voir des gens qui vont nous aider à le faire. Des gens à qui on a confiance, des gens qui vont prendre une décision et à qui on est d'accord de suivre, quelle que soit la décision qu'ils vont prendre. Parce qu'il faut qu'on soit conscient de l'enjeu. Une incompréhension, si elle est simplement gardée ou communiquée à quelqu'un sans être confrontée à la personne, qu'est-ce qui est en jeu? C'est l'unité de l'Église et l'efficacité de notre témoignage. Soyons-en conscients. Alors que Dieu nous garde dans l'unité de la foi pour que l'Évangile puisse être vécu et proclamé avec puissance. Je vous invite à la prière.